Et on retrouve tout de suite Agora, le magazine de la rédaction en partenariat avec Maxentre, présenté aujourd'hui par Sophie Deschamps et Frédéric Sabourin. Bonjour à tous.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à l'antenne de RCF Loiret et avec Frédéric Sabourin de Maxentre. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Et nous accueillons aujourd'hui Jean-François Vincent, président de Biocentre. Bonjour Jean-François Vincent.
Bonjour.
Alors nous faisons un zoom aujourd'hui sur l'agriculture biologique après l'adoption le 22 mai par le gouvernement du nouveau règlement bio européen. Des nouvelles règles qui s'appliqueront en Europe à tous les producteurs bio et ce dès le 1er janvier 2021. On va en parler en détail, mais tout de suite un petit portrait. Alors Jean-François Vincent, vous avez 63 ans, vous êtes éleveur de moutons et de cochons depuis 1979 à Marseille dans le sud du Cher, près de Saint-Amand-Montrond, c'est bien ça ?
C'est ça.
Vous vous êtes converti au bio en 1987 par souci de pérenniser votre activité, puis par conviction. Vous avez participé à la création du GAB du Cher, groupement d'agriculteurs biologiques et biodynamistes, en 1989, puis Biociel, la fédération régionale la même année. Ensuite, suite à la fusion de Biociel et de Interbiocentre en 2007, Biocentre est né, une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière biologique dans notre région avec près de 600 adhérents et vous en êtes le président depuis 2012. Alors, première question, Jean-François Vincent, ce nouveau règlement bio-européen adopté après 4 années de négociation, c'est vraiment un acte important pour l'agriculture bio aujourd'hui dans notre région et en Europe ?
Ben oui, parce que c'est le cadre dans lequel va se pratiquer toute l'agriculture biologique de l'Union européenne à partir de 2021. Donc c'est ce qui encadre complètement nos pratiques au quotidien.
Est-ce que ces pratiques sont... Est-ce que ces règlements européens, vous êtes comme beaucoup d'agriculteurs, à les regarder avec suspicion avant qu'ils arrivent ?
Ah non. Non, pas du tout. C'est le nouveau, donc le précédent, il datait de 2007. Alors, c'est pas que c'est tout rose, parce que comme c'est au niveau européen, forcément, c'est un peu le plus petit commun dénominateur. C'est un peu ce qui nous occupe et c'est le pourquoi de notre communication. C'est-à-dire que les consommateurs, les citoyens français, il y a des choses sur lesquelles ils aimeraient aller plus loin. Et nous, on est d'accord avec ça et on aimerait un peu que l'Union européenne nous permette de pouvoir aller plus loin que ce cahier des charges européen.
C'est-à-dire un cadre, il faut un cadre, un grand cadre, mais pouvoir se mouvoir à l'intérieur. Parce qu'évidemment, faire du bio dans le Cher, c'est pas la même chose déjà que de faire du bio dans la Drôme. Et c'est pas la même chose que de faire du bio au fin fond de l'Allemagne ou en Pologne ou au sud de l'Espagne.
Alors, c'est vrai, oui, mais on n'en est pas encore à un niveau de régionalisation du cahier des charges, qu'on se comprenne bien. C'est-à-dire qu'avant, on avait des cahiers des charges nationaux. En 2007, il y a eu un cahier des charges européen et qui a, disons, interdit la possibilité à chaque État membre d'avoir ces règles un peu plus exigeantes. Voilà, bien sûr, le cahier des charges, c'est, on va dire, le filet de sécurité. On ne peut pas produire en dessous de ça, en dessous de ces exigences-là. Par contre, nous, ce qu'on demande, c'est que chaque État membre, puisque l'Union européenne, pour moi, c'est quand même des États membres, ce n'est pas des régions membres, ils puissent aller un peu plus loin dans la mesure où l'État est d'accord. Et dans notre cas particulier, c'est la France, quoi.
Alors justement, qu'est-ce que vous avez obtenu dans ce nouveau règlement qui vous paraît important ?
Alors, pour le moment, on n'a pas obtenu le droit d'avoir des exigences supplémentaires par État membre. Nous, on le demande, hein, parce que c'est encore pas, calé complètement. Il y a encore 2 ans de discussion pour que la Commission publie ce qu'on appelle les actes secondaires, qui sont des actes délégués ou des actes d'exécution. Enfin, ça, c'est la tambouille un peu européenne, qui définiront précisément les détails de la production. Là, pour le moment, c'est le cahier des charges cadre, on va dire. Voilà, et on y rentre pas dans le détail. Et donc, on veut mettre à profit ces 2 ans. Disons qu'on essaye de convaincre le gouvernement français, sachant que c'est le gouvernement, c'est pas que le ministère de l'Agriculture qui est concerné, justement d'essayer de convaincre la Commission européenne et les autres collègues États membres d'aller plus loin. Et par exemple, l'exemple qu'on cite, parce qu'il est un peu emblématique, parce que disons, c'est arrivé souvent des reportages un peu dénigrant la bio sous cet aspect-là, c'est l'industrialisation en poule pondeuse, par exemple.
Oui, ça c'est dans votre communiqué, c'est l'exemple que vous donnez. Finalement, par rapport vous-même à votre conversion, hein, puisque vous disiez au départ c'était par souci de pérenniser votre exploitation, puis après par conviction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la production intensive, que ce soit en agriculture ou en élevage, c'est incompatible avec l'agriculture bio ?
Oui, alors moi, quand je me suis converti, c'était par rapport au devenir de notre ferme. On était sur des mauvaises terres. On voyait bien qu'on n'arrivait pas à suivre, disons, l'obligation d'intensifier qui était là. Et que,
bon, que prenait la PAC, notamment ?
Oui, voilà, parce que toute la PAC, on va dire que le gros du financement de la politique agricole commune, ça va quand même aux exploitations les plus intensives. Et vous ne vous en sortez que, faut toujours être en avant. Et donc, on a fait le constat à cette époque qu'on n'y arrivait pas. Donc, il fallait produire de la qualité parce qu'on avait besoin, nous, de prix plus élevés. Et pour que le consommateur soit prêt à payer des prix plus élevés, il faut lui donner de la qualité gustative, de la qualité de la production. Voilà, tout ce qu'il y a dans l'agriculture biologique. Et l'avantage de l'agriculture biologique, à l'époque, et c'est encore plus vrai maintenant, c'est que, on peut critiquer tel ou tel point, mais globalement, il y a une assurance pour le consommateur. Le consommateur reconnaît derrière, il y a des exigences, justement, un cahier des charges, c'est pas des engagements, et puis après, on va pas vérifier si ça se fait ou si ça se fait pas. C'est-à-dire, c'est contrôlé tous les ans, et il y a un vrai, c'est le seul mode de production qui est vraiment cadré à ce niveau-là, contrôlé à un tel point.
Mais vous dites aujourd'hui vouloir faire du bio intensif, c'est une aberration?
Oui, parce que alors la bio, elle est traversée aussi de tendances, et on va dire, pour caricature, hein, mais en gros, il y a ceux qui voudraient une bio super élitiste, très exigeante, mais qui concernerait très peu d'agriculteurs, dont les produits seraient très chers. Et il y en a d'autres qui veulent plutôt surfer sur la réussite de la bio en disant, c'est pas grave, pourvu qu'on ait l'étiquette bio, après, si on met un petit peu de ceci ou un peu de cela, c'est peut-être pas très grave. Et nous, on essaye de garder une bio qui soit réellement cohérente, qui soit... La bio qui va continuer à se développer, qui répond à la demande des consommateurs. Et entre autres, les consommateurs, quand ils achètent par exemple des œufs bio, il faut que l'animal y sorte. La poule, elle sorte, qu'elle soit vraiment dehors. Or, avec certaines, lorsqu'on dépasse des tailles de poulailler au-dessus de 12 000 poules, par exemple, les poules, elles sortent pas. Faut pas se raconter d'histoire. On n'a plus assez d'espace autour des bâtiments pour que les poules sortent. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on demande au pouvoir public, c'est soyez cohérents avec ça. Laissez-nous interdiser, disons au-delà d'un certain, limiter les tailles de bâtiments de manière à ce que l'accès au plein air, l'accès au parcours pour les poules soit réel.
Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose que vous n'avez pas obtenu. Vous demandez une limitation à 9000 poules, c'est
voilà,
ça, par
c'est
exploitation,
ça, voilà,
ce qui est déjà important.
Oui, 9000 poules, après, ça permet de faire vivre un élevage de poules pondeuses, quoi. Il n'y a pas de souci. Or, on s'aperçoit que la tendance, là aussi, parce que toute l'économie, elle est dans ce sens d'augmenter la productivité. Et donc, on commence à avoir des en France, on n'est pas forcément les pires d'ailleurs, mais on commence à avoir en France des élevages qui font plus de 24 000 poules. En Italie, il y a des élevages de plus de 100 000 poules.
Donc, elles sont enfermées, elles ne sont pas en plein air.
Alors, si, il y a les petites trappes, sauf qu'elles ne sortent pas. Parce que, on m'a cité le cas, par exemple, d'une demande de passer en bio en élevage de poulailler. Et donc, il y avait un chemin. Donc, en bio, il faut que les poules, alors je ne sais plus exactement, il faut qu'elles aient, je ne sais plus combien, 10 mètres carrés de parcours. Voilà. Mais le parcours, donc, c'est des champs dans lesquels elles vont se promener, des surfaces en herbe. Mais les poules, bon, c'est créatif. Ils ont peur des prédateurs, et donc elles ne sortent que si elles sont rassurées déjà. Donc il faut à la fois avoir la surface autour, il faut que ce soit arboré, par exemple, il faut qu'il y ait des arbres ou alors des parasols.
Se planquer un peu.
Voilà, qui les protège des prédateurs ailés en général.
En même temps, quand il y a 100 000 poules au même endroit, on se demande bien quel renard aurait l'inconscience de venir essayer de mettre son nez là-dedans.
Au contraire.
Mais alors, comment fait le consommateur pour s'y retrouver? Parce qu'effectivement, quand on va acheter ses œufs, on veut qu'il y ait éventuellement l'étiquette bio. Et est-ce que c'est du vrai bio? Ou est-ce qu'il y a
comment,
du
bio? Oui, c'est ça. Comment bio, est-ce qu'on peut savoir, finalement? Parce que vous l'avez esquissé tout à l'heure. Vous avez dit, certains vous disent, on a le label, puis après, on fera un petit peu ce qu'on veut. Enfin, on peut se
comment
dire ça.
Comment se retrouve?
Ça pourrait induire le doute chez nos
auditeurs.
Oui,
non, vous ne me prenez pas dans ce que j'ai dit. Là, si on intervient à ce moment-là, c'est justement pour éviter les dérives. Mais la bio, elle est contrôlée, elle est faite sur ces bases-là. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelques élevages de 24 000 poules en France, c'est sans commune mesure avec les élevages. Vous avez vu peut-être la vidéo de L214 il y a quelques semaines. C'est un élevage de je ne sais plus combien, de 2 millions de poules. Enfin voilà, je veux dire, c'est sans commune mesure avec la réalité de l'agriculture actuelle. C'est pas parce que nous, on se bat pour avoir une bio plus exigeante que la bio, on va dire, au minimum du cahier des charges européen, c'est une bio au rabais. Non, c'est quand même une bio qui est réellement exigeante pour l'ensemble de ces productions. Il y a toujours des choses à améliorer. Nous, on est pour que la bio, elle soit pas comment dire figée à un moment. Il faut toujours aller plus loin dans le respect des animaux et du consommateur.
RCF, la joie se partage.
Vous écoutez Agora sur RCF Loiret en partenariat avec Maxentre et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean-François Vincent, président de Biocentre, puisque nous parlons du nouveau règlement bio européen adopté après 4 années de négociations le 22 mai par le gouvernement. Frédéric Sabourin.
On en a parlé tout à l'heure, le bio de bonne qualité, de très haute qualité, ça va de pair avec un prix. En France aujourd'hui, hein, parlons du cas de la France, même si on a parlé un peu d'Europe au départ, mais en France, on est partagé entre vouloir toujours des choses moins chères, parce que le pouvoir d'achat des gens n'est pas extensible. Il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Est-ce qu'ils peuvent se payer du bio ou pas? C'est une question, je vous la pose. Avoir encore plus de qualité dans le bio, ça voudra dire forcément un prix, et c'est le juste prix. C'est le prix aussi pour que les agriculteurs bio puissent se rémunérer également, et c'est normal. Comment est-ce qu'on sort de cette équation qui a l'air impossible à résoudre? Je veux des produits de bonne qualité bio et pas trop cher. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à y voir clair là-dedans?
Vous l'avez dit, l'alimentation a un prix. On a essayé de s'affranchir de ça. On a vu ce que ça a donné, la vache folle, par exemple. Mmh. Voilà. Donc, il y a des limites. Moi, je suis désolé, mais de la viande, par exemple, de porc en dessous d'un euro du kilo,
À quoi ça ressemble?
À quoi ça ressemble? Mmh. La réalité, personne n'a intérêt, ça a plus aucun sens, quoi. Or, l'alimentation, il faut la remettre. C'est quand même la base de la santé. Il faut la remettre à sa juste place. Et pour ça, alors je parle juste de la santé humaine, mais c'est aussi derrière les effets induits sur la qualité de l'eau, toutes ces choses-là.
C'est global.
Sur la biodiversité, voilà. Et c'est tous des éléments, le réchauffement climatique, c'est tous des éléments. Peut-être nous, c'est pas nous qu'on en subira réellement les conséquences, mais nos enfants, oui. Donc c'est maintenant qu'il faut s'occuper de ça. Et effectivement, alors après l'histoire du prix, c'est une vraie question, sauf qu'il y a aussi le problème avant, me semble-t-il déjà dans la société, à partir du moment où on se dit qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de revenus par la baisse continue du prix de l'alimentation, il faut résoudre le problème de revenus autrement, c'est-à-dire par une meilleure répartition, etc., enfin par une société peut-être un peu moins inégalitaire, ça c'est un autre sujet, mais c'est un vrai sujet. Et après, pour ce qui est de l'alimentation, il faut effectivement caler les choses pour que on puisse donner des produits agricoles qui soient une agriculture qui ne externalise pas ses coûts, comme on le fait avec la dépollution qu'on est obligé de faire derrière sur l'eau, etc., et qui travaille sur à protéger le plus possible la santé à travers l'acte de manger. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la bio. Alors, après, lorsqu'on parle des coûts comme ça de l'alimentation, il y a plein de choses qu'il faudrait regarder. En ce moment, on travaille sur la restauration collective, à l'introduction de produits bio en restauration collective.
Avec les circuits courts?
Court ou long, enfin
non,
voilà.
Non, c'est gaspillage, allez-y.
Voilà, oui, c'est-à-dire que quand on voit le gaspillage, qui représente à peu près 30%, et on a organisé un colloque Biocentre la semaine dernière à Bourges sur la restauration collective, et par exemple, il y avait la responsable des services de la mairie de Chambray, qui sont en train de passer au 100% bio, dans toute leur pour toute la commune, toutes les cantines de la commune, ils ont économisé exactement 25% sur le coût des repas. Parce que tout ça en mettant des actes qui sont des actes citoyens, c'est-à-dire de travailler avec les convives, donc souvent les enfants, sur la responsabilisation, simplement sur travailler sur l'organisation de leur cantine, c'est-à-dire de mettre du self, par exemple, au lieu de servir les gens, les jeunes, parce que les jeunes, ou de laisser se servir, ce qui revenait eux-mêmes. Voilà. Et du coup, on change un peu les méthodes, plus on responsabilise les convives, on arrive, et puis faut pas hésiter à se remettre en cause, à remettre en cause nos habitudes, et on s'aperçoit qu'il y a de sérieuses économies. Alors, eux, il y a eu quand même un petit surcoût, hein, c'est clair, que la mairie est prête à assumer, la municipalité les assume parce que pour le bien de tous, mais par exemple, il y a une association qui s'appelle 1 plus bio qui regroupe des communes, des collectivités qui sont, on va dire, actifs sur l'introduction de produits bio en restauration collective. Pour les 75 communes qui ont 20% de produits bio dans leur restauration, c'est pas que des communes, c'est des collectivités, le coût du repas, il est à 1,80€ en coût matière, hein, donc en coût de produit. Voilà. Et donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Ça veut dire que lorsqu'on y travaille, on peut travailler. Moi, je suis éleveur, mais je trouve tout à fait normal aussi qu'on réduise la part de viande éventuellement. voilà, on n'est peut-être pas obligé de manger de la viande tous les repas. Mmh. Voilà. Donc ça, ça ne me gêne pas. Il vaut mieux manger moins de viande et plus de qualité. Donc on peut travailler sur les grammages aussi pour les enfants, par exemple. Voilà, on ne peut pas leur donner 120 grammes de viande. Voilà, le steak haché, il peut faire 80 grammes suivant l'âge et c'est tout à fait adapté. Voilà.
Alors, il y a eu les états généraux de l'alimentation récemment où toutes ces questions ont été abordées, notamment celle de l'introduction du bio dans les écoles avec la préconisation d'un repas bio par semaine. Mmh. Ça vous paraît être un bon début ou vous dites ça ne va pas assez vite?
Ben, ça va jamais assez vite, mais alors c'est pas forcément un repas bio par semaine qui est la bonne méthode. La méthode, c'est voilà, lors du colloque de la semaine dernière, on avait eu d'autres exemples. Ils avaient commencé par faire ça et puis ça marchait pas bien. Et donc maintenant, ils ont introduit plutôt un ingrédient tous les jours.
Par repas.
Par repas, tous les jours. Dans leur... Il y a au moins un ingrédient, quoi, voilà.
Ce qui est proposé.
Voilà. Et donc ça permet, nous en plus, c'est plus facile de répondre à la demande. Parce que lorsque vous avez 2000 ailes de poulet à fournir, c'est pas facile en bio. Alors que si vous avez un produit qui vient régulièrement, vous pouvez derrière organiser, planifier auprès des producteurs pour produire régulièrement.
Et vous-même, c'est votre cas, vous avez été marché avec les collectivités, la restauration collective, où
voilà,
vous
alors,
fournissez du porc ou du mouton?
Oui, alors moi, je travaille avec des coopératives, donc moi, je suis plutôt en filière longue, mais du coup, on est organisé avec des grossistes. Un de mes, disons, des abattoirs avec qui je travaille, est un de son plus gros clients, c'est Elior, qui est un des principaux, comme Sodexo, quoi, entreprise de restauration collective.
Vous dites que vous êtes converti au bio, ça veut dire que vous n'étiez pas en bio avant.
Ouais,
qu'est-ce
qui
vous a fait vous convertir au bio? Vous l'avez dit au début, il fallait qu'on se diversifie pour la pérennité de l'entreprise, mais il n'y a peut-être pas que ça.
Alors, il faut dire que moi, je n'étais pas paysan. J'ai voulu m'installer. Enfin, je suis fils de paysan, j'ai voulu aller en ville. Et puis,
vous en êtes revenu.
Voilà, j'ai voulu de la liberté, donc je suis revenu paysan. Et donc, je ne voulais pas m'installer bio à l'époque. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais même pas que ça existait, la bio.
Et donc, vous dites à l'époque, c'était...
Donc, 79, les années 70. Et donc, en fait, le constat, moi, j'étais sur des mauvaises terres, le constat que j'ai fait, c'est que la ferme, on n'arriverait pas à en vivre. Et donc, il fallait qu'on travaille sur la qualité. Et c'est pour ça qu'on est passé en bio, parce que ça offrait justement cette exigence de qualité au niveau production. Mais en face, c'est une qualité qui a été reconnue par les consommateurs. Et du coup, on peut se permettre de vendre plus cher. Voilà, d'avoir un prix de vente qui corresponde au coût. Et c'est ça, quoi. Et alors depuis, on va dire clairement, mais je suis devenu écolo, comme on dit, mais comme tout le monde devrait l'être quand on voit les problèmes qui se posent dans la société, quoi. Mais à l'époque, il faut dire que la bio, on était 12. Dans le département du Cher, donc maintenant on est 150, voilà, et il n'y avait pas d'aide, enfin voilà, c'était un parcours.
Vous étiez regardé de travers un peu comme des doudingues.
Un petit peu.
Des attardés, des arriérés, enfin on a entendu des tas de choses.
Ouais.
C'est pas, parmi les raisons qui vous ont fait convertir au bio, il n'y a pas un petit peu aussi des questions de santé par rapport à tous les intrants qu'on pouvait mettre à une époque dans la terre?
À l'usage des pesticides?
Non.
On va y venir, au glyphosate. Hein, ça, vous voyez, on y va tout doucement.
Alors moi, je n'ai jamais été... Alors c'est une autre raison, mais c'est plus un sentiment que quelque chose de réfléchi. C'est-à-dire que moi, je n'aimais pas traiter, effectivement. Mais je ne prenais pas de précautions. C'est-à-dire que je n'ai pas de crainte pour ma santé. Bon, je n'avais jamais de masque quand je traitais, mais je ne traitais pas assez. Ça fait que je n'avais pas j'avais pas des rendements assez élevés en conventionnel. Donc, en gros, il fallait que je fasse le choix, quoi. Soit il fallait que je sois intensif, voilà, que je traite vraiment chaque fois qu'il fallait, que j'écoute les conseils des techniciens. Soit il fallait que je fasse autre chose et j'ai préféré me tourner vers autre chose.
Et il y avait vraiment des conseils, quand vous dites les conseils des techniciens, on vous disait qu'il fallait y aller, qu'il fallait mettre plutôt deux fois la dose qu'une.
Alors non, c'est pas non. Non, les techniciens, ils disent bien qu'il faut utiliser la dose, etc. Il y a même des conseils à l'époque, vous pouvez baisser les doses, voilà, pour que... Non. Alors, les techniciens, ça dépend, il y a soit les techniciens de boîte qui ont intérêt à vendre, soit des techniciens de, par exemple, du champ d'agriculture, qui eux ont plus intérêt quand même malgré tout à défendre les producteurs, donc le revenu du producteur. Bon, en gros, je caricature, mais c'est un peu ça quand même. Donc il y a tout dans le milieu agricole, mais voilà. Non, mais il n'y a pas de gaspillage, parce qu'on ne peut pas se permettre, même ceux qui traitent, ne peuvent pas se permettre de vraiment traiter. Après, surtout moi, j'étais dans une mauvaise terre, donc on essayait de traiter le moins possible. Après, dans les bonnes terres, c'est vrai qu'ils regardent beaucoup moins, ils prennent un peu l'assurance tout risque traitement quand on a des bonnes terres. Voilà, quand on est dans mauvaise terre, on est obligé de regarder un peu pour économiser.
Quand on a une mauvaise terre, c'est pas parce qu'on va traiter beaucoup que ça va s'améliorer.
Non. Ah ben non.
Alors on vient en glyphosate.
Voilà, 63 députés ont voté contre l'interdiction du glyphosate.
Dans trois ans.
Ça fait beaucoup de remue-ménage dans l'opinion publique. C'est une occasion manquée, selon vous, d'avoir acté quelque chose de très important, a priori, pour la santé des gens. Et on se rend bien compte que tout le monde s'est emparé un peu du sujet, quoi. C'est pas seulement un sujet de spécialiste. On voit les dégâts que ça peut causer en France. Hein, il y a Paul François, cet agriculteur charentais, qui a été empoisonné par des produits Monsanto, qui combat cette société. Qui est la société qui est en elle-même qui se pourvoit en cassation. Son combat n'est pas terminé, mais bon, il a été. On voit des exemples de gens en Argentine avec des problèmes de malformation,
oui,
etc.
Là, on est sur un problème
on
mondial.
On est sur un vrai problème mondial. On a raté le coche. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a tant de députés qui étaient absents déjà? Ça intéresse beaucoup l'opinion publique, mais pas trop les élus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes les mains dedans?
Alors,
pas dans le glyphosate, mais dans le bio.
Je complète alors qu'il y avait eu cette promesse du président Macron.
C'était une promesse.
Et du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot.
Et c'est pas n'importe
qui. Tout à fait. Non, mais je pense réellement que c'est une occasion manquée. Une occasion manquée parce que le ministre de l'Agriculture a cédé au lobby agrochimique, c'est clair.
On n'en sortira jamais alors? Parce que les lobbies agrochimiques,
non, mais
dans 3
dire...
ans, dans 5 ans, ils sont toujours là.
Ben écoutez, il y a eu un président qui est là, qui a été élu, ça fait un an. Voilà, j'allais dire, c'est le problème. Mais quelque part, c'est ça, c'est que toujours, malgré sa volonté de dire qu'il est nouveau dans ses pratiques, il est un peu comme les anciens, il promet des choses et il ne les tient pas, quoi. Bon, ça, c'est... Mais c'est vrai que c'est dommage, mais vous avez raison, parce que... Mais le combat n'est pas perdu, parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu une vraie prise de conscience de la population à l'occasion de ce débat.
Hein, voilà. On le constate. Hein,
oui, puis c'est important. Et donc, il y a deux choses. Vous parlez de Paul François, et donc Phytovictime, l'association dont il est le président, avait fait une proposition, du coup, personne n'en parle, mais qui est extrêmement intéressante, qui était d'avoir un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides payés par les fabricants de produits. Et ça, c'était bien. Par contre, le Sénat l'a voté il y a quelques mois ou quelques semaines, je ne me rappelle plus. Et là, les députés ont refusé l'amendement. Alors, j'espère que le Sénat aura le courage de ressortir ça et qu'en commission paritaire, ça sortira.
Oui, mais c'est les députés qui auront le dernier mot.
Oui, mais la commission paritaire, vous savez, c'est Sénat et donc, bon, après, ça, c'est des trucs de discussion entre eux, je ne sais pas. Mais disons, là, il y a un vrai sujet, il y a une vraie avancée qu'on pourrait avoir. Et la deuxième avancée, elle est, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu très récemment dans la revue Science, il y a eu 233 scientifiques du monde entier qui ont fait un appel à l'arrêt des néonicotinoïdes. Parce que il y a les deux tiers des insectes du monde qui ont disparu. Et ça veut dire que là, c'est vraiment...
Dont les abeilles.
Dont les abeilles, mais l'ensemble... Et ça, c'est vraiment... C'est justement encore plus grave à court terme que le glyphosate, même si on en parle moins. C'est l'effet des néonicotinoïdes qui sont, depuis 10 ans, épandus largement en agriculture, mais pas simplement en agriculture. Le collier de votre chien antipuce, c'est des néonicotinoïdes. Et donc ça entraîne, du fait... Bon, je passe sur les détails d'application, mais c'est des produits systémiques. Et vous avez un scientifique du coin qui s'appelle Jean-Marc Bonmartin, je crois, qui est par là autour du CNRS, ou, qui propose, et ça, c'est vraiment, à mon avis, le travail qu'il faut, enfin, comment dire, une proposition qui est réellement intéressante. Ça dépasse la bio, ça va plus loin, mais il est de dire, et donc, excusez-moi, je reviens dans ce débat sur les néonicotinoïdes. En même temps, le ministre Le Foll avait demandé à l'ANSES.
Donc le ministre de François Hollande.
L'ancien ministre de l'Agriculture. Voilà, avait demandé à l'ANSES, parce que nous, en France, on a théoriquement interdit les néonicotinoïdes. En pratique, ce n'est pas mis en place, mais c'est quand même en théorie. Et il a demandé à l'ANSES une étude sur les produits de substitution aux néonicotinoïdes. Et donc, l'ANSES vient de sortir son rapport en même temps. Et elle dit que 80% des traitements par nicotinoïdes pourraient être remplacés par des traitements naturels. Et il n'y a que 3% des traitements par les nicotinoïdes qui n'ont pas d'alternative. D'autres alternatives chimiques, moins dangereuses, etc. 3%. Et donc, ce que dit Bonmartin avec d'autres scientifiques, c'est qu'il dit qu'il faudrait aller vers une interdiction complète. Et par contre, qu'on ait un fonds d'indemnisation qui permette, si par exemple votre culture est ravagée par telle bestiole, et ben du coup, pour 3%, du coup, on vous remboursera votre récolte, quoi, on vous assurera. Et ça, c'est quelque chose de très intelligent qui permettrait de baisser très vite, très fortement, l'utilisation des néonicotinoïdes, mais aussi du glyphosate, parce qu'on pourrait exactement avoir la même démarche, sans forcément passer en bio. Voilà.
Alors, pour conclure, parce que là, il reste très peu de temps, Jean-François Vincent, l'agriculture biologique, selon vous, c'est vraiment l'avenir de l'agriculture, parce qu'on entend que l'agriculture biologique ne peut pas nourrir toute la planète. Vous dites quoi? Et ce sera votre conclusion.
Eh bien, écoutez, je dis qu'effectivement, l'agriculture biologique, mais c'est pas pour l'année prochaine. À long terme, oui, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, mais il faut aller plus vite. Je pense que l'agriculture biologique va se développer. Elle peut se développer plus vite qu'elle le fait actuellement. C'est-à-dire que là, on pourrait très vite atteindre 30-40% d'agriculture biologique.
C'est la volonté politique. Mais par contre,
Oui, c'est clairement, ça manque la volonté politique. Mais il faut aussi aller faire bouger l'agriculture de masse. Voilà. Et c'est en faisant les deux, je pense qu'on permettra un avenir serein pour nos enfants.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-François Vincent, donc président de Biocentre, d'être venu aujourd'hui au micro de RCF Loiret dans Agora. Merci beaucoup Frédéric Sabourin.
Merci à vous.
Cette émission est à retrouver en podcast sur rcf.fr ou sur le site de Maxentre, maxentre.fr. Bon appétit à vous.